L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Eh bien, bonjour à tous. C'est encore une fois les studios de FM+ qui accueillent l'Afrique dans tous ses états. Et je suis toujours en compagnie de mon compère, complice Jérémy, voilà, pour une petite traversée. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Youmna Bekier, donc, qui est étudiante en anthropologie et qui a un parcours intéressant et qui a des choses intéressantes à nous dire concernant justement le continent dont nous préoccupons depuis si longtemps. Alors bonjour Youmna.
Bonjour Marie-Claude, bonjour Jérémy.
Bonjour Youmna, bonjour ben, Marie-Claude.
Voilà, bonne arrivée comme on dit au pays des hommes intègres. Et donc comme je disais, tu es étudiante en anthropologie et j'aimerais bien que tu te présentes un peu, que tu nous expliques finalement comment aujourd'hui tu te retrouves à Montpellier. Voilà, est-ce que tu es née là? Est-ce que voilà, et comment est-ce que fait que tu te et à l'université Paul Valéry en particulier? Voilà, on t'écoute.
Et ben alors, moi je suis pas du tout de Montpellier à l'origine. J'ai grandi dans le Vaucluse. Je viens d'un petit village à côté d'Avignon. Et en fait, j'ai eu la chance d'être entourée d'une famille qui était assez artiste. Ma mère, elle est chanteuse. Enfin, elle est prof à la base, mais elle a fait pas mal de chansons. Et donc, ce qui fait que j'ai un peu baigné dans tout ce milieu culturel artistique. Et quand il est venu le moment de faire le choix de ce que j'avais envie de faire comme études, c'était plutôt vers des études culturelles, parce que j'ai fait pas mal de musique moi-même. Mmh. Et il y avait aussi un grand attrait pour toutes les questions géopolitiques. Mmh. Et je suis le nouveau bac, je suis la génération nouveau bac, donc j'ai eu la chance de pouvoir faire la géopolitique au lycée. Mmh. Et donc je me suis retrouvée après mon lycée à Lyon pour faire des sciences sociales. Avec de la science politique, de l'histoire, etc. Et ça m'a beaucoup plu. Et il y avait notamment de l'anthropologie que je ne connaissais pas tant, parce qu'en fait, c'est très méconnu, surtout au lycée. Et donc, j'ai découvert cette discipline à ce moment-là. Ça m'a pas mal plu, mais à Lyon, c'était pas ce qui me transcendait le plus, on va dire. Et à la fin de cette première année de licence, j'en ai eu un peu marre de la fac. Alors, j'ai fait une année de césure. Après un an, oui. Mais voilà, j'avais envie de savoir ce que j'avais envie de faire et j'avais envie de pouvoir faire une pause pour voyager. Et du coup, je suis partie pendant un an, je suis partie au Sénégal. C'est pour ça aussi que je suis ici aujourd'hui. Mais je suis partie au Sénégal, je devais partir 6 mois et au final, je n'ai pu y passer que 2 mois. Mais je pense qu'on y reviendra peut-être après.
Oui, oui, oui.
Et pendant cette année de césure, j'ai aussi travaillé en France, je suis allée en Espagne en sac à dos. Enfin bref, j'ai fait plein de choses. Et j'ai décidé de retourner à la fac à Montpellier. En anthropologie, parce que l'anthropologie, c'est une matière qui m'a beaucoup intéressée sur ce que ça apporte comme questionnement et réflexion. Pardon. Comme questionnement et réflexion sur en quoi c'est une méthode pour prendre conscience de notre position, de notre posture, d'où on se situe et comment on réfléchit et interagit par rapport aux autres. Et voilà. Et donc, je suis venue à Montpellier parce que le département d'anthropologie est assez intéressant. Mmh. Et voilà.
Pourquoi je suis là. Plus qu'à Lyon.
Plus qu'à Lyon, oui. Moi, je trouve, en tout cas, que c'est ce qui me plaît plus ici, ouais, qu'à Lyon.
D'accord.
Bon, alors, dans ton histoire, dans ta présentation qui est succincte, on va dire, mais on va développer tout à l'heure, tu pars du nouveau bac, donc anthropologie, et puis tout d'un coup, enfin, en tout cas, moi, je trouve ce qui m'intéresse, les enseignants de ton histoire, comment une jeune fille peut s'intéresser à l'anthropologie. En général, c'est réservé à des gens d'un certain âge, on va dire, et qui ont des questionnements beaucoup plus, je dirais pas rationnels, mais irrationnels plutôt. Tandis que toi, tu fais ta pause après tu fais une année de césure, tu voyages, et puis tu t'intéresses à l'anthropologie.
Bah, je pense que l'anthropologie, c'est aussi parce que j'ai mon grand-père qui est décédé aujourd'hui, mais qui était historien.
D'accord.
Et qui était aussi vachement intéressé par l'anthropologie. Enfin, il y a eu un socle familial qui était intéressé et qui était nourri de toutes ces questions-là. Donc j'ai grandi dans cet environnement-là.
Bon. Voilà, je comprends mieux, mais...
mais parce que oui, c'est vrai que c'est souvent, même là, à la fac, on est très peu en anthropologie, parce que c'est un truc très niche, et c'est souvent associée à des hommes d'un certain âge, aussi plutôt très blancs, parce qu'il y a quand même une grande histoire de la naissance de l'anthropologie qui est liée à la colonisation, malheureusement. Mais donc c'est aussi ça que traîne l'anthropologie. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse dans l'anthropologie, c'est comment se défaire de tout cet héritage sans le nier et l'oublier, parce que c'est pas du tout le but. Mais en fait, en quoi aujourd'hui c'est vraiment un outil qui sert même dans les études décoloniales, dans les études de genre, dans les études féministes, parce que c'est, pour moi, je le vois vraiment comme une méthode de réflexion, et c'est ça qui m'intéresse, parce que je pense que j'ai été nourrie par des réflexions sur, j'ai une famille qui est aussi libanaise, donc c'était aussi comprendre d'où on vient, quelle histoire on a vécu. Quel est l'impact de l'Occident en tant qu'aussi occidental, enfin un peu tout ce métissage familial, culturel, est-ce que ça vient nourrir comme réflexion? Et je trouvais que l'anthropologie, c'était ce qui me permettait de passer mes journées à réfléchir à ça, en faisant des études quand même.
D'accord. Et donc là, votre réflexion est en train d'aboutir, si je comprends bien.
Oh là, d'aboutir, je ne sais pas, j'ai 20 ans, j'espère que ma réflexion n'est pas déjà aboutie à cet âge-là.
Ouais, mais donc, en gros, vous allez poursuivre dans l'anthropologie?
Oui, oui. D'accord. Oui. J'aimerais beaucoup continuer dans l'anthropologie, ouais. Me spécialiser plutôt vers des études de genre, parce que je trouve que c'est extrêmement large et il y a encore énormément de choses à comprendre sur le patriarcat, l'implication que ça a dans nos sociétés, comment ça se répercute et comment c'est assez universel alors qu'il y a aussi énormément de différences culturelles partout dans le monde. Donc c'est plutôt de l'anthropologie des études de genre qui m'intéresse. Ouais.
Et je vous conseille de lire Todd, alors, Emmanuel Todd, ça va beaucoup vous aider.
Ok, je regarderai.
Il a beaucoup travaillé sur ça, sur les familles, comment ça se constitue en Europe, et le rôle même de l'anthropologie pour comprendre la géopolitique dont vous parlez, et puis où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à l'étude décoloniale, par rapport à l'expansion occidentale. Et c'est un miroir, en fait, qui pourra vous aider, en tout cas. Je vous conseille vivement, Todd.
Je regarderai.
Voilà, puis on a parlé tout à l'heure de Françoise Héritier-Auger, qui entre autres, écrit un livre remarquable qui s'appelle « Masculin, féminin, la pensée de la différence ». C'était aussi, c'est extraordinaire. Hein. Voilà, et c'est sûr que là, on se rend compte que Youmna, elle est vraiment de sa génération, même si les études qu'elle a entreprises au départ, c'est que des vieux messieurs qui les font, et on voit bien quand même comment cette ouverture, hein, cette modernité, tout à coup, qui s'ouvre, comme quoi, quand les jeunes s'approprient les outils des vieux, ils savent en faire quelque chose aussi.
D'accord. Oui, c'est pas les enjeux contemporains, nous, actuels. Voilà.
Ouais. Et puis, Youmna, je me rends compte quand même que l'année de césure, passée de Sciences Po à de sciences politiques, enfin, de réflexion comme ça, à anthropologie, ça a été utile, enfin, finalement, cette année d'errance, un petit peu, entre guillemets.
Mais oui, parce que c'était pas prévu, et ça c'est pas... Enfin, c'était prévu. Si, j'avais décidé de faire une année de césure, mais tout ce qui allait se faire pendant cette année n'était pas défini. Ouais. Et en fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai compris, c'est un peu bateau de dire ça, mais que, en tout cas, j'ai trouvé quelque chose qui m'intéresse vraiment. Donc vraiment, je trouve que c'était...
Et quand, Jérémy, quand on va continuer, on verra que quand elle dit c'est ce qui se présente, qui arrive, etc., on va voir comment Youmna, elle sait très bien au fur et à mesure, quand la vie, quand elle tend quelque chose et puis que ça ne se fait pas, elle sait très bien rebondir et faire autre chose.
Et si on faisait une pause musicale pour revenir un peu sur les sujets, sur le cinéma, par exemple, après?
Ben, peut-être oui, peut-être sur son œuvre, son chef-d'œuvre.
Ouais. Alors la musique, s'il vous plaît.
Alors Youmna, tu nous dis le titre par contre.
Oui, alors c'est Why et c'est de Kia Loum, c'est une chanteuse sénégalaise.
D'accord. Sénégalaise, voilà. C'est...
Tan badu mala mer hey ha summa la wala ho galana def skim tu la yu katan badu mala mer hey ha. If you need a friend, I am here for you. If you need a friend, I am here for you. Falalema, Hari, Hari Summa,
voici de retour dans les studios de FM+, toujours évidemment en compagnie de Jérémy, et puis aussi avec notre invité du jour, Youmna Bekié. Voilà, donc Jérémy, peut-être
oui, alors, un commentaire. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va demander à Youmna son expérience au Sénégal, comment elle arrive au Sénégal.
Il ne faut pas le dire, parce qu'elle ne savait pas au départ.
Bon, c'est une... comment arrive-t-il le contexte?
Non, je plaisante, parce que vous allez comprendre pourquoi je dis ça.
D'accord, alors vas-y.
Oui, alors bah, parce que donc, j'ai fait une année de césure,
ouais.
Et à l'origine, moi je voulais aller en Égypte. Donc pas d'accord. Du tout le Sénégal.
Mmh. Voilà, tu vois.
Je voulais plutôt aller près du Moyen-Orient et pour faire travailler dans une association culturelle. Mmh. Et quelques semaines avant la confirmation finale, alors que ma fac avait accepté ma césure, j'avais tout fait, tout était prêt, mmh. On m'a dit que je n'étais pas acceptée pour l'Égypte et qu'en fait, ça n'allait pas être possible de me prendre parce que bah, j'avais 18 ans à l'époque et mmh. J'avais jamais pu expérimenter ça, donc je n'avais pas cette expérience. Bah, sauf que, bah, oui, mais bon, faut bien commencer quelque part.
C'est les raisons qu'on t'avait données.
Oui, on m'a dit qu'en fait, chercher quelqu'un d'un peu plus expérimenté, d'accord. Ce que je comprends, mais du coup, c'est vrai que c'était un peu précipité par rapport à l'avancée du projet. Mmh. Et donc, c'était un peu incertain, cette césure qui, pour autant, était déjà signée avec la fac, etc. Et il s'avère que j'ai une tante qui est pas du tout sénégalaise, pardon, qui est française, mais qui vit au Sénégal partiellement depuis une quinzaine d'années. Et qui a plein d'amis là-bas, dont une amie qui travaille dans une réserve naturelle. Et elle m'a dit, bah, moi, je peux te trouver un stage, et comme ça, tu fais pas rien pendant ta césure. Donc, je me retrouve au Sénégal pour passer 6 mois dans une réserve naturelle. Et deuxième galère, on va dire, de cette année de césure, j'arrive et on me dit qu'en fait, ce n'est pas possible. Parce que pour travailler dans une réserve naturelle, il faut une autorisation. Parce que moi, je n'allais pas modifier foncièrement la réserve, mais j'étais censée faire des animations pour que les enfants des écoles puissent venir découvrir la réserve. Mmh. Et en fait, le commissaire de la réserve n'avait pas les autorisations pour que je vienne. Sauf qu'il avait quand même décidé de me faire venir. Et entre-temps, on a découvert ça, donc il s'est fait licencier. Et le nouveau commissaire est arrivé avec lui, pas l'envie de me faire venir, sauf que je n'ai pas été mise au courant. Et donc, je suis arrivée au Sénégal sans savoir qu'en fait, je ne pouvais plus travailler dans cette réserve. Donc là, je commence à me dire, ça fait beaucoup pour une année de césure qui est censée être chouette de découvertes et de plein de choses. Et donc, j'arrive au Sénégal avec tout mon projet qui peut pas se réaliser, mais j'ai rencontré les amis de ma tante et leur fille principalement, et qui heureusement étaient là pendant ce mois. Du coup, j'ai passé au final qu'un mois au Sénégal à ce moment-là, au lieu de 6. Et heureusement qu'elles ont été là, parce qu'en plus, du coup, j'avais quitté toute ma vie en France et ça se passait pas très bien non plus avec la distance. Et donc, je me suis vachement réfugiée dans ces amitiés-là, dans ces rencontres-là. Et je me souviens très bien avec Bassine, donc une des amies qui figure dans le documentaire que j'ai fait ensuite avec elle. On est allé à Dakar et on est allé sur l'île de... C'était l'île de Ngor, je crois.
Ngor.
L'île de Ngor, ouais, on était là. Et on était en train de se baigner. J'allais rentrer en France dans pas trop longtemps et je me disais, mais je sens qu'il y a un truc que j'ai envie de faire ici. Il y a quelque chose qui m'a... Tous les échanges, toutes les discussions qu'on a eues, toutes les rencontres que j'ai eues avec toi, avec plein d'autres femmes, ça m'a marquée, ça m'a touchée, ça c'est venu résonner quelque part en moi et je sens que j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas vraiment quelle forme ça va prendre. Et nouveau coup de chance un peu, on va dire, coup de chance quand même là pour le coup, j'ai rencontré un réalisateur sur la plage français, Antoine Désert, et je lui parlais tout ça, on a pas mal sympathisé. Il m'a dit, mais fais-en un film, t'as un potentiel pour faire un film avec ce sujet. Et donc ben, j'ai dit oui, tout en sachant que je ne viens pas du cinéma, que je n'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai pas d'apprentissage technique. Mais je me suis dit, ben, pourquoi pas, je pense que ça s'apprend, il me faut une caméra, un micro, et puis ça peut s'apprendre. Et donc je suis rentrée en France avec cette idée de retourner au Sénégal pour faire un film sur, un documentaire sur ces femmes et sur ces récits de femmes sénégalaises. Donc voilà comment je me suis retrouvée au Sénégal.
Alors c'est une histoire, c'est comme une histoire du cinéma.
C'est une histoire du cinéma, et puis on va dire aussi que Yuna n'a peur de rien, franchement. Quand
ah
même.
Oui, il y a 20 parce ans, que... je veux dire, à l'époque dire qu'elle,
va, dire qu'elle va faire un film alors qu'elle n'a jamais... Techniquement, elle n'est pas du tout...
J'ai peur de rien, ou je suis un peu ambitieuse, ou alors je suis très naïve.
Oui,
je
sais pas non, ou attentiste un peu à l'air du temps, enfin, à ce qui se passe aussi peut-être. Hein, à la fois te donner les moyens, mais tout en étant à l'écoute de ce qui se présente à toi, quoi. Voilà, donc par exemple, quelqu'un aurait pu te dire encore fais un film et tu aurais dit ah non, non, mais moi, c'est pas possible, j'ai pas fait, voilà, je sais rien faire. Non, mais
je pense qu'en elle, on voit bien à travers son histoire, là, les ressorts familiaux, parents qui sont déjà.
Il y a aussi, voilà, il y a une
artiste. Donc
voilà.
Les artistes, ils vont à l'aventure en général, ils osent des choses comme ça improbables et puis ça finit par aboutir. Non, mais c'est ça qui est intéressant.
D'accord.
Alors, donc cette histoire.
Alors, moi, j'aimerais par contre, excuse-moi, Jérémy, j'aimerais bien qu'elle nous dise le titre du, du film. Tu vas voir, comme ça, ça va t'inspirer.
Oui, alors, c'est un documentaire qui s'appelle Celle qui reste debout, au pluriel.
Voilà.
Celle qui reste debout, mais au pluriel. Quoi.
Mmh, d'accord. Bon.
Non, mais c'est pas le titre.
Ah, oui, ouais, d'accord. Ouais. Alors,
je préfère préciser.
C'est quoi ces femmes qui restent debout
Donc, en fait, c'est un documentaire avec des entretiens de 7 femmes.
Ouais.
Du village où j'étais.
Ouais.
J'ai choisi ce titre. C'était assez compliqué. Alors, moi, c'est un documentaire qui parle du mariage, principalement. Enfin, c'est axé autour du mariage. En tant que structure qui est un peu vue comme un rite de passage pour acquérir le statut social de femme. En fait, moi, c'est ça que je trouve intéressant. Avec Bassine, justement, on avait beaucoup parlé. Elle a 30 ans, elle n'est pas mariée. Et de...
C'est un phénomène en Afrique. Hein.
Et ben, en tout
une
cas,
femme qui n'est pas mariée...
Elle, c'était comment, du coup, elle subit une forme de pression de par les traditions, mais de sa famille, des gens du quotidien, et comment ça l'impacte. Et en fait, moi, ça m'avait marqué, pas particulièrement qu'il y ait une pression, parce que je pense que c'est aussi courant dans plein d'endroits du monde d'avoir une pression au mariage, mais d'à quel point c'était quelque chose qui revenait dans ces parcours de femmes, une forme d'obligation... Mais, bah, oui, une forme d'obligation, comme si c'était ce qui permettait d'être complète en tant que femme, et que sans ça, il y avait quelque chose qui manquait, quoi. Et donc, c'est un peu ça que j'ai voulu questionner, et j'ai essayé de me documenter sur ce qui avait été fait, de lire s'il y avait justement des anthropologues, des sociologues. Je préférais des femmes sénégalaises qui avaient déjà fait des choses là-dessus. Et en parallèle, ben, j'ai lu évidemment une si longue lettre de Mariam Abba, qui est un très très beau, très beau livre.
Très beau livre, ouais.
Et c'est à partir de ça, en fait, il y a une phrase dans ce livre, c'est, alors exactement, je crois que c'est la première debout, la dernière couchée, toujours occupée, pour signifier les femmes. Mmh. Et ça m'est marqué, et je voulais que mon titre, il puisse être aussi significatif envers cette phrase. Mmh. Et alors j'ai hésité, parce qu'au début, je m'étais dit, oui, mais mettre un mot en français, c'est quand même, alors que c'est des femmes sénégalaises, j'étais pas très fan. Mmh. Et en fait, dans ce film, elles sont de plusieurs ethnies, et elles ont pas toutes la même langue. Il y a le Wolof qui est quand même commun, mais c'est pas, il y a aussi d'autres langues. Mmh. Et du coup, je ne savais pas exactement quel mot mettre. Et je me suis dit, Mariam Abba, c'est quand même une bonne référence. Et donc, celle qui reste debout, c'est aussi en lien avec cette phrase dans son livre, Une si longue lettre.
Mmh,
voilà. Et c'est pas que... bon, c'est bien sûr assez littéral, parce que je pense qu'elles sont tellement actives tout le temps qu'il y a aussi ça. Mais c'est aussi celle qui reste debout, qui signifie cette force, cette résilience, au-delà de individuellement avoir des expériences qui font que c'est qu'on a vécu des choses compliquées et qu'il faut continuer de rester debout. Mmh. C'est aussi en tant que femme et la condition de femme en général où je trouve que c'est une force de continuer de faire tout ce que ces femmes font en tant que femme, quoi.
Oui, non, mais c'est vrai, ça, je rebondis un peu là-dessus parce que la pression du mariage en tant que telle, elle existe partout là-bas. Moi, j'ai ma propre tante qui est cadre supérieur, qui n'a jamais été mariée. Mmh. Mais quand elle va au village parce qu'il y a des funérailles, elle apporte les choses, elle a beaucoup d'argent, mais elle n'est pas considérée. Mm-hmm. C'est sa petite sœur qui est mariée, un petit instituteur d'un petit village, c'est qu'elle donne la parole. Donc voilà, la pression sociale, même anthropologique, du mariage sur les femmes. Mais en même temps, il y a aussi des raisons, hein, on peut l'expliquer. Je ne crois pas, a priori, toutes les femmes veulent se marier, mais bon, les circonstances de la vie font que. Moi, je me souviens, en 96, tu n'étais pas encore née, il y avait des femmes de Côte d'Ivoire, cadres, médecins, avocats, qui ont fait une tribune dans le journal officiel pour demander à ce que les autorités légalisent la polygamie pour sortir de l'hypocrisie.
Mmh. Oui, tout à fait.
Elles ont mis des chiffres... clair sur la table, dans le document. Mmh. Sur 10 naissances, il y a 7 femmes. Et les hommes, plus ils vont loin dans les études, bon, arrivant en licence ou maîtrise, ont déjà une copine. Ou, voilà. Et toi, quand tu arrives, tu es seul. Et les mecs, ils n'aiment pas les femmes trop diplômées. Ils ont du mal avec, ils ont du mal à gérer. Enfin, ben voilà, il y a plein de raisons comme ça qu'elles ont énumérées. Et puis, quand de ces relations qu'elles ont naissent un enfant, ben, il a un statut de bâtard. Voilà. Mm-hmm. C'est très difficile de demander à ce qu'on sorte d'hypocrisie, que tout le monde sait qu'ils ont 2-3 bureaux en Afrique. Autant faire les choses clairement. Mais malheureusement, c'est toujours pas acté. Au Cameroun, c'est fait. Au Sénégal aussi, je crois. La polygamie, il y a qu'à avoir un nouveau président. Mais ailleurs, c'est pas encore tranché. Donc oui, c'était un sujet. Et j'aime bien les femmes debout parce qu'elles se lèvent tôt le matin. Ma grand-mère le faisait. Elles se lèvent tôt au village, en tout cas. En campagne, hein, en ville, je sais pas, mais
tôt le matin. C'est dans un village aussi.
Voilà. Et balayer la cour, les enfants, à préparer pour aller au champ, à manger. Et elles rentrent tard. Enfin, elles font plus que les hommes.
Ça, il faut ça c'est certain. Certain.
Et heureusement qu'elles sont là.
Le double, je ne sais même pas en quantité à combien c'est. Mais en plus, moi, j'étais pendant le mois du Ramadan. Et donc, il y avait aussi... Bon, au-delà de toutes les préparations par rapport au Ramadan, les hommes ne faisaient rien de la journée. Et c'est peut-être un peu catégorisant de ma part de le dire, mais de mon vécu, de ce que j'ai vu, on va dire, sans catégoriser et essentialiser tout le Sénégal pendant le Ramadan, mais dans ce village-là, les hommes étaient en train de se reposer toute la journée. Et en fait, les femmes et les enfants, et s'occupaient quand même de nettoyer, de ranger, de préparer le repas. Et même si ça tourne, parce que là, moi, quand j'y étais, j'étais plutôt dans des endroits où il y avait des maisons collectives, parce que c'est dans une zone rurale, justement. Même si ça tourne, il y a toujours quelque chose à faire, en fait. Et c'était vraiment flagrant de voir cette différence, de posture, quoi, des hommes qui étaient souvent assis ou allongés ou à boire, pas du tout, du coup, paleté pendant le Ramadan, mais voilà, dans un truc de beaucoup plus calme, alors que les femmes s'affairaient toute la journée, quoi.
Est-ce que ces femmes ont vu le film ?
Oui.
Quelle fut leur réaction ?
Alors, les 7 qui ont participé, elles l'ont vu. Et elles ont toutes été... c'était très chouette. Moi, je n'ai pas pu être là quand elles l'ont vu, mais j'ai eu les retours après. Elles m'ont toutes donné leur accord pour qu'il soit diffusé. Elles ont toutes été assez touchées de la parole qui était différente de chacune. En fait, ça montre qu'il y a 7 femmes, mais elles ont chacune un avis extrêmement différent. Et du coup, elles étaient contentes de voir qu'il y avait une pluralité de visions et que ce n'était pas uniforme. Et il y en a une d'elles aussi qui est une des plus jeunes, qui a 18 ans, qui a participé. Qui, elle, est assez marrante parce que elle, quand je lui ai dit que je voulais faire un film et que je voulais l'interroger, elle m'a dit « Ah, je vais être une star !» Et elle a vu le film et elle m'a dit « Ah, je suis une star, je suis trop contente !» Donc j'étais vraiment contente de voir la réaction.
Oui, et justement, au cours des entretiens, est-ce que tu as senti par moment une petite prise de conscience par rapport à ce qu'on vient de dire, une prise de conscience que finalement les femmes, elles sont fourrées au moulin tout le temps ou qu'elles sont obligées de se marier, par exemple, ou même par exemple en Afrique aussi, les femmes, la stérilité d'une femme, c'est un drame, c'est terrible pour une femme de ne pas avoir d'enfants, etc. Et au cours de tes entretiens, tu as eu l'impression par moment que chez elles, il y avait un éveil, une certaine prise de conscience des différences, justement, ou pas trop, ou des velléités aussi d'indépendance par moment. Est-ce que tu as senti des choses comme ça?
Eh ben alors, je pense qu'elles le savaient déjà, elles sont très conscientes. Elles, je les ai connues avant de faire ce film, du coup, vu que j'y suis allée une première fois, c'est là que je les ai toutes rencontrées. Plus ou moins, on va dire. Et ensuite, quand on a fait ce film, j'étais aussi énormément avec elle en dehors du film. Donc on parlait aussi de plein de choses. Ça a été très continu. Je ne pense pas leur avoir apporté une prise de conscience. Par contre, je pense que ça a été quelque chose d'important pour elles d'avoir un espace pour parler et pour pouvoir dire tout ça ouvertement. Mais elles sont très conscientes. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on voit qu'elles sont 7, la plus âgée, elle a 54 ans, et la plus jeune, 14 ans. Elles sont toutes musulmanes, mais elles sont d'ethnies différentes. Et elles viennent toutes d'un milieu rural. Et en fait, du coup, ça fait... Il y a différentes générations, et on voit l'écart où toutes, elles ont très conscience de ce que c'est qu'être une femme dans une société patriarcale, bon, au Sénégal, mais dans une société très patriarcale, où il y a aussi une très grande part de la religion. avec un poids de la famille, des traditions, etc. Et donc, elles ont vu ça, elles le savent très bien. Et ce qu'on voit, par contre, c'est qu'entre les générations, il y a une différence des plus jeunes qui sont beaucoup plus vindicatives de « mais nous, notre mari, il va faire autant que nous, c'est pas juste, nanana », et des plus âgés qui sont peut-être un peu plus résignés de « dans tous les cas, c'est comme ça ». Et face à cet état des lieux, moi, j'ai envie de faire autre chose et d'essayer de trouver d'autres manières de m'émanciper et de me sentir bien.
Alors, ce qui est intéressant, parce que justement, pour ça que je demandais ça, parce qu'effectivement, je ne pensais pas du tout qu'on pouvait leur apporter une connaissance qu'elles ont déjà ou une conscience, mais par contre, effectivement, avoir cet espace-là, où en plus, bon, on peut être une star, comme tu disais, ou en tout cas, on sait qu'on a un espace de parole et qu'on est suffisamment pris en compte. Et je trouve que c'est intéressant, justement, que, et puis qu'il y ait pu y avoir ces échanges en dehors et tout ça, quoi. Parce que ça aussi, on sait bien que sur un tournage, souvent, d'ailleurs, c'est autant intéressant les temps en dehors du tournage que ce qui se passe après, sur, voilà, devant la caméra, quoi. Donc, tu as pu partager ça avec ces femmes-là, c'est extraordinaire. Moi, je suis jalouse. Hein.
Non, mais en fait, oui, l'histoire était très intéressante. Après, tu as parlé des femmes résilientes, les plus âgées et les plus jeunes, qui ont envie que leur mari participe un peu davantage aux tâches ménagères, on va dire. Et toi, du coup, ton regard, entre guillemets, d'occidental, plus jeune, européenne, enfin, etc., comment tu vois les choses évoluer dans les années à venir ? Est-ce que tu penses que les plus jeunes qui espèrent que leur mari participe, le futur mari, mais là, il y a le poids de la religion. Comment ça pourrait changer si ça devait changer ?
Je pense que ça va être un combat très long et je ne sais pas comment ça va vraiment... Surtout qu'il y a aussi une part de la religion qui est de plus en plus grande et là, on le voit bien avec... Et des traditions aussi, on le voit bien avec le nouveau président qui est polygame et c'est pas quelque chose...
Assumé. Enfin,
voilà, c'est très, très décomplexé. De, en fait, ce que ça vient aussi valider et banaliser comme comportement marital, si on peut dire. Même d'un point de vue anthropologique, en fait, ce qui vient être montré comme la norme et ce qui vient être validé du point de vue des traditions. Et donc, je pense que ça va être un combat d'arriver à être en accord avec leurs convictions et avec ce qu'elles, leurs espoirs et leurs exigences, on va dire. Qu'elles soient complètement légitimes, c'est pas ça la question, en fait. C'est comment ça peut s'appliquer alors qu'il y a le poids de la famille. Après, je pense aussi qu'il y a une évolution du point de vue des plus jeunes générations. Je peux pas généraliser, mais je pense qu'il y a quand même une envie de sortir d'un schéma qui est très... très lié à la famille et aux traditions. Peut-être pas partout, mais par exemple, là, il y en a une qui est mariée. Et elle vivait en maison collective, mais ça y est, elle est allée vivre à Dakar et c'était son souhait, elle va pouvoir reprendre un travail. Et en fait, parce que son mari, il a aussi une mentalité qui a évolué par rapport à son père ou à d'autres générations d'hommes. Donc je pense et j'espère pour elle que ça va pouvoir évoluer comme elle le souhaite. Et je pense en tout cas qu'elles s'en donneront tous les moyens qu'elles peuvent. Après, voilà, c'est ça, c'est la question d'à quel point on est limité et financièrement et matériellement et du point de vue de la famille et de tout le poids des traditions qu'il y a aussi avec.
Parce que l'exemple qui est donné au sommet de l'État entre le président et le Premier ministre, peut-être que ça va finir par résorber la question de cette pression qu'il y a sur les femmes qui ne sont pas mariées. Si eux, ils donnent l'exemple en étant polygames, peut-être que la suite est des autres, ils sont jeunes, les présidents qui sont là, peut-être que, probablement, ça pourrait, je ne dis pas que c'est la solution, mais ça pourrait participer en tout cas à réduire cette pression et puis peut-être que les femmes accepteront la polygamie parce qu'elles n'ont pas le choix, on va dire.
Bah, c'est déjà le cas, ça va pas changer, elles n'ont déjà pas le choix.
Elles n'ont pas le choix.
C'est déjà, parce que c'est dans l'islam, la polygamie elle est autorisée, mais il y a quand même un certain nombre de conditions. Il faut demander l'avis de la première, il faut qu'on soit en capacité de donner à la première ce qu'on donne à tous les autres, ce qui concrètement n'est pas faisable.
Théoriquement, oui, théoriquement.
Ce qui concrètement n'est vraiment pas faisable, c'est pas matériellement, financièrement, c'est pas possible. Et même, c'est aussi un côté émotionnel, quoi. Enfin, il y a vraiment un truc dont on va partager de manière très équitable. Sauf que ça ne peut pas se quantifier non plus, peut-être le temps, les émotions passées avec
à mon avis, ton prochain sujet d'anthropologie, tu vas peut-être plancher là-dessus.
Voilà, c'est continué comme ça.
Ouais,
c'était justement une petite remarque justement qui me vient, c'est que c'est en pensant à nos mères, à nos grands-mères, etc., c'est que effectivement, le côté économique, l'aspect économique, souvent, il enlève la possibilité du choix, et que ce qui peut commencer, encore que notre société est loin d'être exemplaire, bien au contraire, mais ce qui peut changer, en tout cas dans l'esprit d'une femme, c'est à un moment d'avoir conscience que son travail mérite rémunération et que du coup elle peut avoir un revenu qui lui permet à un moment d'envisager son avenir autrement selon comment elle vit sa situation
encore
maritale.
Faut-il que les femmes soient rémunérées.
Voilà, encore faut-il. Oui, mais c'est ça qui c'est ce progrès-là aussi qui peut. Voilà. J'y pense parce qu'il y a une préoccupation actuellement chez les jeunes Africains, c'est la mondialisation, et chez les parents des jeunes Africains. La mondialisation, qu'est-ce que ça va produire chez nos jeunes, quoi. Hein. Donc voilà. Donc tout ça pour dire à Yumna qu'elle a du boulot.
Ah oui, il faut une suite.
J'ai le temps encore.
Elle peut faire une suite.
Voilà, à la fois sur le film, et puis sur le pan des études, l'anthropologie.
Et puis on verra.
Essayer de comprendre, percer le mystère.
Et puis
on verra si on peut projeter ce film, parce que j'ai vraiment envie de le voir. Et puis je pense que ça serait un débat très intéressant à avoir, avec des prolongements éventuellement.
Le mot de la fin pour Yumna.
Le mot de la fin, oh là là, ça, je suis prise de court.
Ben oui, c'est comme ça.
Merci beaucoup de m'avoir invité. J'espère que oui, il pourra être vu ici, parce qu'en plus, c'est intéressant à chaque fois. Après, il y a des discussions et je trouve que c'est intéressant de pouvoir prolonger ça.
Alors, merci de nous étions sur FM+, la radio qui nous accueille au 04 67 05 19 27. Contact mail, contact.radiofmplus@gmail.com. Merci à tous.
Voilà. Et merci à Adrien, notre technicien, sous la houlette de Stéphane. Merci à la technique.
Merci beaucoup.
L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.